Alors, j'ai réalisé tout à l'heure que je vous ai accueilli sans me présenter, ce qui est tout à fait impoli. Je suis Sandra Berthézen, je suis titulaire de la chaire de gestion des services de santé ici au CNAM. C'est pourquoi je vais vous parler de la complexité dans le secteur de la santé, plus particulièrement dans les hôpitaux et éventuellement un petit peu dans les établissements médico-sociaux. Et en même temps, c'est pour moi l'occasion de vous montrer comment j'aborde la complexité sans en parler sur le terrain lors de mes recherches et interventions au sein de différents établissements, parce que c'est au cœur évidemment de mes travaux de recherche. Alors évidemment, c'est pour un humanisme, un management humaniste, en tout cas plus humaniste, des services et des établissements, et on va voir pourquoi il aurait éventuellement besoin d'être un petit peu plus humaniste. Pour preuve que le secteur et les connaissances qui nourrissent sont éminemment constructivistes, j'ai repris cette citation de l'ouvrage d'Olympe de Gouges. Le seul nom de l'Hôtel-Dieu, qui n'est pas très loin d'ici, doit les effrayer. Elles implorent la mort plutôt que les secours de cette maison. Ils font un hôpital pour le peuple et on déchargera l'Hôtel-Dieu déjà trop surchargé. Alors c'est vrai que depuis 1789, on a fait quelques progrès en matière de qualité à l'hôpital, encore que la question de la surcharge se discute encore aujourd'hui. Donc on a évolué, mais il n'empêche qu'il y a encore des choses à travailler. L'hôpital a réellement évolué à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale sous l'impulsion du Conseil national de la Résistance qui nous dit qu'il faut pour la France un plan complet de sécurité visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Et c'est à partir de là qu'on a imaginé le système de santé et le principe de sécurité sociale naturellement qui l'anime. À tel point qu'on l'a inscrit dans notre Constitution en 1946, la nation garantit à tous la protection de la santé. Et à ce jour, cette phrase reste tout à fait inchangée et il nous incombe de garantir à tous la protection de la santé. La même année, l'Organisation mondiale de la santé, donc toujours en 1946, écrit dans son préambule de la Constitution, que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est important de le rappeler ici parce que bien souvent la santé, dans un contexte franco-français, est assimilée au contexte sanitaire et hospitalier. Or, on se rend bien compte qu'avec cette définition, la santé recouvre d'autres formes de prise en charge et d'accompagnement et donc concernent les établissements sociaux et médico-sociaux. Il y a quelques professionnels de la santé ici. C'est extrêmement important parce que ça anime les politiques de santé publique. C'est à l'œuvre actuellement avec la fusion de grands organismes de tutelle. Et les règles, les lois qui animent ces secteurs sont tout à fait différentes. Donc c'est pas neutre pour le secteur. Alors, Que se passe-t-il? On se rend bien compte qu'en dépit de tout ça, on a aujourd'hui un contexte qui est quand même un peu différent que celui de l'après-guerre. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on entende dans les médias des scandales ou des problèmes liés au secteur de la santé. Alors des crises sanitaires, des urgences saturées, des malades qui meurent sans qu'on sache ou qu'on comprenne bien pourquoi, des maisons de retraite hors de prix, et c'est chaque semaine comme ça. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que dans notre monde, il y a une multitude de crises et que le secteur de la santé, y compris en France, ne vit pas à l'extérieur de ce monde. Nous sommes bien dans ce monde. Et c'est parce qu'il y a des crises depuis un certain nombre d'années qu'il n'y a pas de raison que notre système de santé ne soit pas impacté. Alors, je vous renvoie pour ça un excellent rapport qui date déjà de 2012 du BCG qui montre très bien que depuis ces 30 dernières années, les crises, alors ils appellent ça les turbulences, hein, se sont à la fois accélérées et elles sont de plus en plus nombreuses et elles impactent de manière beaucoup plus massive l'ensemble des secteurs de l'activité économique. Alors bien sûr, s'agissant de la santé, c'est moins spectaculaire que ce qui se passe dans les technologies de l'information, la finance, hein, par exemple, mais il n'empêche qu'on en voit bien les impacts. Alors, quelles sont ces crises ? Pour nous, les choses ont évolué très très rapidement ces derniers temps. On a une explosion des cancers, une explosion des maladies cardiovasculaires. La maladie d'Alzheimer, qu'il faut prendre en charge, et les pathologies associées, il faut prendre en charge de manière beaucoup plus massive. Il y a encore quelques années, on ne vivait pas assez vieux pour prendre en charge aussi longtemps de telles pathologies. Et bien sûr, les maladies chroniques, qu'il faut prendre en charge pendant extrêmement longtemps, et diabète et toute autre maladie. Donc ça, ce sont les phénomènes les plus marquants de ces dernières années. Et d'un point de vue, alors c'est pas neutre, hein, on boit trop, on mange trop, on fume trop, il y a trop de pollution, on fait pas assez de sport, enfin, le monde a changé effectivement. Sur le plan économique, eh bien des crises financières, vous avez tous en tête la crise des subprimes, mais qui nous impacte encore, et y compris dans notre système de santé. En France, nous sommes extrêmement protégés. On s'en rend bien sûr beaucoup moins compte qu'aux États-Unis, mais il n'empêche que ce n'est pas neutre. L'impact n'est pas du tout neutre sur nos établissements. Ces dernières années, il y a eu des méga-fusions entre des laboratoires pharmaceutiques. Il y a encore 30 ans, on a assisté, enfin, on avait des dizaines de laboratoires avec qui on pouvait négocier. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, forcément, on ne va pas négocier les prix des médicaments lorsqu'on a un confetti par rapport à un géant. Donc, forcément, ça a un impact là aussi sur nos établissements. Et bien sûr, l'apparition de grands groupes de l'hospitalisation et du médico-social cotés en bourse. De manière extrêmement brutale, hein, sur le marché, avec à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires pour l'un et pour l'autre l'année dernière. Donc évidemment, tout ça a un impact sur les établissements, le financement, le système de manière générale. Les crises, vous avez tous en tête, le Mediator, le Distilbène, l'affaire du sang contaminé. Enfin, depuis les années 80, on a eu très régulièrement ces crises. D'ailleurs, Marisol Touraine, qui était là il n'y a pas très longtemps, nous expliquait que être un ministre, c'était passer son temps à anticiper et gérer des crises. Et du coup, les turbulences, eh bien, on les voit aussi dans notre paysage légal, réglementaire et légal. Il faut suivre le mouvement. Donc, on est sans arrêt en train de réajuster la loi et d'avoir des réformes pour essayer d'ajuster le système, son financement, les établissements, leur manière de fonctionner pour suivre effectivement ce mouvement. Les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information, sciences cognitives, qui font qu'on a le CRISPR-Cas9 que vous avez évoqué, on l'a vu brièvement tout à l'heure, qu'on a de la robotique, on a toutes ces technologies-là qui sont à notre portée, mais évidemment, ça a un coût et ça donne aussi lieu à de nombreux débats éthiques. Donc là aussi, des turbulences qui nous montrent beaucoup plus qu'auparavant la complexité. La complexité a toujours existé, la preuve n'est pas à faire. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'environnement, le contexte dans lequel évoluent les personnels hospitaliers et médico-sociaux fait que cette complexité est beaucoup plus palpable. Donc l'humanisme au cœur et au fondement de la mission des services de santé dans ce contexte de plus en plus difficile. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le terme humanisme, qui est un gros sujet de débat avec mes collègues sociologues, je reste sur la définition classique qui consiste à dire qu'une gestion humaniste met au premier plan de sa stratégie et de ses pratiques l'homme qu'elle tient pour valeur suprême, que l'on parle ici d'un salarié, d'un patient, d'un résident ou d'un collaborateur libéral. Et évidemment, je ne pourrais pas adopter, vous en avez parlé tout à l'heure, je n'aurais pas adopté cette définition dans un contexte japonais. Je collabore avec des Japonais, le terme d'humanisme ne signifie rien. On est au centre de rien, on est au milieu de tout. Et le terme-là ne serait pas du tout compréhensible. Ici, on peut se le permettre. Et les hommes sont porteurs d'humanitas, d'humanité, c'est-à-dire d'un comportement permettant de créer et d'entretenir des liens entre les hommes. Et c'est bien sûr aussi la capacité à adopter ce comportement grâce à la connaissance, au savoir, à la culture et à leur transmission naturellement. Et donc la pensée complexe relie ce qui est épars, elle est mue par une éthique de reliance, et vous avez tous en tête les quatre opérateurs de reliance sur lesquels je ne vais pas revenir naturellement, mais du coup il est très facile de comprendre qu'à partir du moment où l'on parle d'humanité, à partir du moment où l'on parle des hommes qui ont besoin de créer des liens et d'entretenir ces liens, on peut très facilement parler de reliance et de montrer que les quatre opérateurs de reliance permettent d'avancer, y compris dans un contexte organisationnel, et de prise de décision dans un environnement incertain. Alors, il y a au moins trois points communs qui nous permettent d'aborder la complexité dans les établissements. Trois points communs par bloc de deux termes. D'abord, la solidarité et le bien commun. Les établissements de santé, le système de manière générale, existe grâce, on l'a vu dans le préambule, au principe de la solidarité nationale. Solidarité entre les revenus, solidarité entre les malades et les bien portants. Ce sont les principes mêmes de notre système. Mais pas seulement. On a aussi des solidarités. Solidarité intergénérationnelle, familiale, amicale, associative, mutualiste. C'est une richesse qui est unique et qui anime un système de santé dont la France s'est dotée durant ces six dernières décennies. Et ces solidarités qui sont entamées en raison d'une multitude de dysfonctionnements, on en a pourtant besoin. On a besoin de ces différentes formes de solidarité pour garantir, préserver la liberté et l'égalité des personnes, des individus, des humains, en dépit de la maladie, du handicap, du problème social, de la fragilité, en dépit aussi de la perte de revenus. On a besoin d'une forme de solidarité pour atteindre cet objectif, mais aussi pour agir sur les inégalités de santé, les inégalités sociales de santé. Vous avez tous en tête cette image qui consiste à dire que d'un bout à l'autre de la ligne du métro, on gagne ou on perd 2 à 4 ans d'années d'espérance de vie en raison des revenus, des conditions sociales de chacun. Donc on a un système de santé qui s'est doté de formes de solidarité permettant d'atténuer ces inégalités sociales. Mais il y a aussi un contexte qui est éminemment pragmatique, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont des analyses qui sont faites depuis de nombreuses années par le BIT, l'OCDE et l'OMS qui nous disent tous qu'un pays qui se dote de bons établissements de santé et d'un bon système qui est capable de les animer, c'est un pays qui est plutôt en bonne santé d'un point de vue économique, qui crée de l'emploi et qui assure une certaine forme de cohésion sociale. Et bien sûr, qui lutte contre les risques sanitaires. Et tous les chiffres le montrent depuis évidemment très longtemps. Donc, notre solidarité fait que la santé, c'est 8% des dépenses des ménages, c'est 11% un peu plus de 11% du PIB, mais c'est 80% des financements publics. C'est peut-être pour ça, évidemment, qu'on a l'impression que ça coûte cher. Ça coûte quand même bien moins cher qu'aux États-Unis, où le reste à charge est évidemment le triple pour les Américains, et où le poids de la santé représente 17%. Du PIB, et où l'espérance de vie, je vous le rappelle, a reculé de 2 ans ces deux dernières années, où on trouve des cas de peste régulièrement. Ça représente quand même 262 milliards d'euros, donc ça, si ce n'est pas de la solidarité. Et puis, il y a quand même autre chose, c'est que si on veut essayer de préserver cette forme de solidarité, bien que le système doive évoluer, il ne s'agit évidemment de le garder figé. Il faudrait, me semble-t-il, commencer à imaginer les établissements et les services comme étant des biens communs. Et là, je m'appuie sur les travaux d'Elinor Ostrom sur le bien commun. C'est-à-dire permettre une délibération collective permanente pour une plus grande responsabilité de chacun. Je ne suis pas qu'un consommateur de soins, je ne suis pas qu'un professionnel de santé. Nous collaborons tous dans ce service, dans cet établissement et dans ce système, et nous souhaitons le préserver. On collabore et on agit sur lui, et on le gère, on le manage comme un bien commun. Mais vous voyez derrière immédiatement la difficulté de la définition des règles. Il faut se doter de règles communes qu'on a soi-même décidées. Nous ne sommes pas dans un système qui nous permette encore aujourd'hui de décider soi-même des règles à l'intérieur d'un établissement ou d'un organe de tutelle. Mais en tout cas, c'est une question qu'il faut garder à l'esprit puisqu'elle avance avec l'idée de démocratie sanitaire. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais cette idée-là est institutionnalisée et rentrée dans la loi, et de gros efforts sont en route de ce point de vue-là. Donc il y a encore une marge énorme pour arriver au bien commun de l'Elinor Ostrom, mais il n'empêche que l'idée commence à faire son chemin. Alors, le problème de tout ça, c'est que d'un point de vue épistémologique, On se rend bien compte que ces concepts sont en totale construction, appellent une pensée beaucoup plus ouverte et ouvrante, pour rappeler le titre de la conférence d'aujourd'hui. Sauf que vous voyez bien que les modèles qui animent le système et les organisations qu'il compose, c'est un modèle extrêmement cartésien. C'est un modèle qui découpe le phénomène, qui le regarde petit bout par petit bout, y compris au microscope. C'est très bien. C'était très bien au moment où on l'a fait. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut prendre de la hauteur pour relier. Il faut commencer à relier pour créer des ponts, créer des passerelles, travailler un petit peu différemment pour sauver justement le système et travailler avec d'autres formes de solidarité et ou en préserver d'autres. À l'intérieur des établissements, un constat à peu près général consiste à dire que les services, les équipes souffrent d'un manque de décloisonnement. Les établissements sont composés d'un pour aller vite, un bureau des entrées, un service de chirurgie, un laboratoire qui va vous faire des analyses, un autre de radiologie, etc. Si vous voulez vous faire soigner, vous devez sauter de silo en silo. Vous n'êtes pas pris en charge selon un continuum. Donc c'est aux patients ou aux résidents de s'adapter à ces silos et ce n'est pas aux professionnels de le faire. Parce que chaque professionnel vit dans son silo, dans son service, dans sa profession, dans son niveau hiérarchique. Sauf que quand on est un patient ou quand on est un résident, on a une pathologie, on a une forme de dépendance et on ne s'attend pas nécessairement à devoir franchir perpétuellement des frontières. Donc on s'adresse à un spécialiste et à un autre spécialiste et à un nouvel expert. Et ça, aujourd'hui, on voit bien qu'on commence à en atteindre les limites. Du coup, chacun étant dans son silo, eh bien, la responsabilité individuelle recule au profit d'une responsabilité collective. Et on se cache derrière la responsabilité collective. Dans mon silo, c'est comme ça, ça s'est passé là-bas, c'est pas le mien, ce n'est pas de ma responsabilité. Ce cloisonnement est organisé par Taylor, Fayol, Weber. Voilà, la théorie classique. Si vous voulez, vous avez à l'intérieur des établissements, mais de tout type d'institutions, des formes d'organisation du travail qui sont héritées du siècle passé. Sauf qu'au XXIe siècle, là aussi, on se heurte aux limites. On veut de plus en plus d'agilité, c'est un terme qui doit vous parler, il est très à la mode. Là aussi, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un dossier de presse sur l'agilité en management. On veut aller très vite, on veut prendre des décisions, y compris dans un contexte incertain et adapté. Sauf que ce n'est pas possible si on travaille de manière extrêmement cloisonnée, en suivant strictement la procédure et en ne pouvant pas aller au-delà. Comment agir dans un contexte incertain si l'on doit sans cesse se référer à la procédure ou au protocole ? La procédure, le protocole fonctionne quand le contexte est stable. Et quand il change, on fait quoi ? On continue de suivre la procédure ? Ben, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait cette dialogique et on a beaucoup de mal à l'organiser. Quand on organise une intervention avec du CRISPR-Cas9, on a besoin d'une procédure extrêmement terre-à-terre pour le lavage des mains, mais on est aussi en train d'expérimenter, de bricoler, au sens noble de Lévi-Strauss, et on avance à petits pas, et on ne peut pas que être cantonné à la procédure. Et à l'hôpital, très honnêtement, on a encore beaucoup de mal avec ça. Donc, d'un point de vue pragmatique, des concepts appellent transversalité, coopération, réciprocité, autonomie, confiance et bien sûr subsidiarité, complètement interdite. Alors qu'en fait, nous avons bureaucratie, hyper-normalisation, organisation en silo. Alors, je ne parle que des aspects négatifs, mais on est très bien soigné à l'hôpital français. Le dernier point, c'est la recherche perpétuelle que nous devrions avoir en matière de bien-traitance et d'empowerment. Donc, empowerment, c'est le principe de la prise de pouvoir des patients sur leur propre pathologie et au-delà de ça, le pouvoir redonné aux individus pour ce qu'ils sont. Donc, donner la capacité aux personnes, pour reprendre la définition formelle, de faire des choix et à les transformer en actions ayant un impact sur leur santé, ce qui n'est pas neutre non plus en matière de prévention et d'éducation à la santé. Et pour la bien-traitance, proposer le meilleur accompagnement possible dans le respect des choix et des besoins de la personne. Sauf que dit comme ça ici, dans un amphi, ça paraît très clair, mais quand on est avec un résident qui est en fin de vie et que la famille n'est jamais d'accord sur ce que l'on doit faire et comment on doit le faire, là aussi, ça devient extrêmement compliqué. C'est exactement la même chose sur des comportements un peu ambigus quand on a à prendre en charge des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer qui se déshabillent, qui fuguent, alors que l'on doit respecter le principe de la liberté de chacun. Voilà. Donc, où se situe le bon comportement, comment faire des choix ? Donc, d'un point de vue éthique, des concepts qui supposent éthique de la compréhension et argumentation. Sauf que, éthique de la compréhension, non, attendez, une éthique de la compréhension ne peut fonctionner que si un patient dépasse ce cadre-là. Si un patient, c'est un écran avec son dossier de soins, comment voulez-vous reconnaître l'individu pour ce qu'il est ? Quelqu'un qui a travaillé, qui a eu une vie, une famille, etc. C'est extrêmement compliqué, mais c'est exactement la même chose s'agissant du soignant. Si on réduit un membre de l'équipe à sa fiche de poste, comment voulez-vous progresser ? Comment voulez-vous accorder à autrui l'humanisme dont il est le représentant? C'est absolument impossible. Donc là, on s'oppose complètement à la pensée d'Edgar Morin. Donc on a besoin d'aller au-delà. On a besoin de reconsidérer les individus pour ce qu'ils sont, au-delà de ce qu'ils représentent. Mais une fois de plus, il faut déconstruire pour reconstruire d'autres formes d'établissement. Alors sinon... On va ressembler au géographe. Vous avez en tête le géographe, je ne vais pas tout relire, mais le géographe, il y a le géographe et les explorateurs. Alors le géographe, il reste dans son bureau et puis il écrit ce que lui racontent les explorateurs. Il ne va pas sur le terrain. Chacun son boulot, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on veut ça pour l'hôpital de demain ? Je ne suis pas certaine. Il faut, là, une fois de plus, relier. Et puis, s'agissant des procédures, ça pour le vivre et l'expérimenter toutes les semaines dans les établissements avec lesquels je travaille, c'est l'éclaireur de les réverbères, hein, c'est l'allumeur des réverbères. On continue d'allumer de plus en plus vite, mais on ne sait pas pourquoi, on le fait juste parce que c'est écrit. Vous le faites pourquoi ? Ben, c'est écrit, mais vous ne le remettez pas en question ? Ben... personne ne le fait, c'est que ça doit marcher. Et on ne va pas au-delà. Et là, on peut réinterroger Bachelard. Et c'est comme ça que je travaille avec les équipes. Eh bien, recommençons. Posons-nous la bonne question. Quelle est la question ? Et on retravaille sur la question à se poser. Parce que ce point de vue n'est pas philosophique. Il est extrêmement pragmatique. Sinon pour les personnels, et à l'hôpital, c'est extrêmement palpable. Si on ne commence pas à s'interroger sur ces questions-là, on va très facilement être remplacé par un algorithme ou un robot. La frontière est très proche. S'il n'y a aucune valeur ajoutée, si on ne sait pas remettre en question les décisions, si on ne sait pas y apporter sa valeur ajoutée, après tout, à quoi bon ? Si on est là juste pour suivre une procédure, l'algorithme sait très bien le faire. Tant que nous n'aurons pas essayé de réformer ce mode d'organisation du savoir au sein des organisations, qui est en même temps un mode d'organisation sociale, tous les discours sur la responsabilité et sur la solidarité seront vains. C'est évidemment pas de moi, c'est Edgar Morin. Et donc, mes travaux me conduisent à montrer que faire obstacle à la solidarité et donc à la coopération à l'intérieur des établissements, le manque de transversalité, le manque de décloisonnement et l'impact que ça a sur la bien-traitance et l'absence ou le manque d'empowerment coûtent entre 10 000 et 30 000 euros par an et par collaborateur. Qu'on soit dans le public ou qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le médico-social ou qu'on soit dans le sanitaire, je n'ai pas travaillé là-dessus sur le social, c'est un gaspillage absolument colossal. Ce n'est pas qu'une vision éthique, c'est évidemment extrêmement pragmatique. Surtout que nous sommes, je vous rappelle, dans des institutions qui parlent sans cesse de leur manque de ressources. Donc pourquoi s'est laissé ce type d'organisation perdurer ? Ben peut-être parce qu'une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Parce que c'est tellement difficile de dire aux équipes sur le terrain, maintenant que nous avons fait ce constat, On le fait grâce à un diagnostic que l'on chiffre, c'est un travail d'une année. Et maintenant, on fait quoi ? C'est-à-dire que se remettre en question, déconstruire et travailler en groupe de travail pour se donner le courage d'attaquer tout ce qui a été construit pendant des années, c'est pas très sexy, quoi. Donc il faut avoir énormément de courage et d'endurance. C'est très vrai pour les personnels. Je vous laisse imaginer la charge qui repose sur l'encadrement intermédiaire et les dirigeants. Une des clés, un des leviers qui permet, qui est une porte d'entrée, ce n'est peut-être pas la meilleure évidemment, mais en tout cas c'est celle que j'ai trouvée, c'est le management des connaissances, parce qu'il boucle bien avec la pensée complexe. Évidemment, on accède à l'humanité grâce à la connaissance, à la culture, au savoir, cela va sans dire, ce n'est pas la garantie de perdurer, mais c'est, en tout cas c'est une des garanties. Et un exemple que j'aime bien prendre, c'est qu'aux États-Unis, on a fait le compte de 40 000 décès en soins intensifs par an en raison d'erreurs de diagnostic. Donc c'est pour ça que les assurances, les régimes se passent par des assurances, les régimes obligent de plus en plus, dans quasiment tous les cas, les établissements de se doter d'algorithmes d'aide au diagnostic pour éviter cela. Donc du coup, la connaissance prend une résonance vraiment immédiate dans les établissements. On voit tout de suite de quoi on parle. Donc la connaissance est évidemment une construction sociale. Heureusement qu'elle est une construction sociale. En médecine, on le voit bien chaque jour, mais aussi pour des notions beaucoup plus humaine, hein, on s'en rend compte à chaque fois. Je vous rappelle à ce titre que l'homosexualité a été considérée comme une pathologie jusqu'en 1900, inscrite comme une pathologie par l'OMS jusqu'au début des années 90. C'est quand même pas la préhistoire, le début des années 90, abandonné comme tel par la France en 1981. On a eu un temps d'avance sur le reste du monde, mais il n'empêche que ça nous rappelle une fois de plus la nature constructiviste de la connaissance. Le management des connaissances consiste à implanter des outils, développer des pratiques permettant d'identifier, capter, partager, accroître et utiliser à bon escient des connaissances présentes dans l'organisation. C'est du coup profondément humaniste. Parce que pour faire ce travail-là, on a besoin de chacun des membres, de toutes les équipes, direction, encadrement et personnel, soins, mais aussi logistique et administratif. Et donc, pour boucler, le management des connaissances, c'est ça. C'est d'abord un processus de création des connaissances, et extrêmement important pour reboucler avec l'éthique de compréhension d'Edgar Morin, c'est un processus de création de connaissances tacite et explicite. Nous, en Occident, on aurait tendance à oublier le tacite. Comment est-ce qu'on reconnaît un visage ? On reconnaît un visage, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on tient sur un vélo ? C'est très difficile d'en faire une procédure. Comment accompagner un résident en fin de vie dans ses derniers jours avec patience et empathie ? Comment faire une procédure ? Mais on a besoin de ces connaissances tacites à l'intérieur des établissements. Ça ne peut pas se faire sans ces fameux temps indirectement productifs, ce qu'on appelle en gestion des temps indirectement productifs. Ce n'est pas très joli, mais il n'empêche que, voilà, on fait la chasse malheureusement à ces temps-là, et on a besoin de ces temps-là pour créer de la connaissance tacite, pour la développer, pour la capitaliser et pour la diffuser. C'est aussi des atouts, des ressources tangibles, intangibles. Évidemment, la confiance est un atout majeur pour faire vivre ce type de changement. Et bien sûr, le rôle des leaders. Ce que Nonaka et Takeshi, dans leur modèle de management des connaissances, appellent, en reprenant Aristote, des phrénétiques leaders. Eh ben, on est un leader phrénétique si on a une vision systémique de son environnement. Pour avoir la vision une approche la plus complexe des phénomènes, si on agit avec énormément de responsabilité et de bienveillance. Je suis en raccourci parce qu'il y a beaucoup plus de principes, il y en a 12. Donc, grâce à ça, on aboutit à un peu plus, c'est une petite pierre à l'édifice, un peu plus de coopération, un peu plus de décloisonnement, un peu plus de responsabilité individuelle et de bientraitance pour plus d'empowerment, de solidarité dans des établissements un peu plus considérés comme des biens communs, que l'on soit sans responsabilité hiérarchique ou dirigeant. Je pense qu'on a vraiment besoin de s'interroger sur ces questions-là. C'est une porte d'entrée, mais je pense qu'on a vraiment besoin de s'interroger là-dessus. Tant les discours sur le système de santé pourraient nous laisser penser que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, il pourrait être modifié et en changer les fondements. Bien sûr qu'il doit changer, bien sûr qu'on doit pouvoir le financer, mais peut-être pas à n'importe quel prix. Voilà. Je vous remercie. Merci.